Salutations à vous tous de la part de ceux qui sont ici à Charlotte. C'est un jour spécial pour ceux d'entre vous qui regardaient ce message pendant ce jour de jeûne spécial que M. Meredith a proclamé pour l'Église, comme il le fait généralement chaque année. Nous entrons dans un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité, et aussi de l'histoire de l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant. Le monde a été pris par surprise l'année passée avec le vote du Brexit. Nous qui sommes dans l'Église, nous comprenons que la Grande-Bretagne ne fera pas partie de la puissance finale de la bête. Et donc, même si cela nous a un peu surpris, nous ne savions pas exactement comment les choses allaient se dérouler. Mais le résultat final est exactement ce à quoi nous nous attendions. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne ne ferait pas partie de la configuration finale qui est encore en cours de formation. De la même manière, le monde a été choqué par l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis. Quelque chose qui a secoué non seulement ce pays, mais le monde. Nous sommes entrés dans une période très dangereuse, dans une guerre dangereuse entre le président et l'establishment. L'establishment libéral est furieux, et ses gens sont très remontés, car ils voudraient faire taire toute opposition. Mais pour l'instant, le président, du moins au moment où j'enregistre ce sermon, le président est resté ferme. Mais il est un personnage hors du commun. Peu importe ce que vous pensez de lui, il faut reconnaître que quelque chose se produit dans le monde, pour le meilleur ou pour le pire, et je pense qu'en fin de compte, nous allons voir que tout n'est pas pour le meilleur. Les États-Unis ont pu survivre à une guerre civile dans les années 1860, mais nous ne pourrions pas survivre à une guerre civile à l'époque où nous vivons. Et nous commençons à être proches d'une situation qui est elle-même proche d'une guerre civile, peut-être pas une guerre, avec des fusils cette fois-ci, et ce ne sera peut-être jamais une guerre avec des armes à feu, mais néanmoins une guerre civile, dans laquelle nous avons une nation divisée avec d'un côté des gens qui s'accrochent à certaines valeurs et des gens de l'autre côté avec d'autres valeurs, et il n'y a aucune possibilité de compromis. Et la raison est qu'un des côtés soutient des valeurs que nous ne pouvons assurément pas soutenir. Même ce président ne s'est pas élevé contre certaines de ces choses de la façon dont nous aurions pu espérer qu'il le fasse. Mais peu importe de quel côté nous sommes, nous devons comprendre qu'il s'agit là de politique, c'est la façon humaine de faire les choses, et cela ne se terminera pas très bien à la fin. Beaucoup de choses qui se produisent vont précipiter l'arrivée de la fin de cette ère. Nous étions autrefois séparés par des océans, mais ce n'est plus le cas de nos jours. Et encore une fois, nous vivons dans un monde bien différent de celui des années 1860, lorsqu'il y avait la guerre civile avec des armes à feu dans ce pays. L'Europe est en pleine confusion en ce moment, et elle tombe en miettes. Nous ne savons pas exactement comment les choses se dérouleront. Nous savons par contre quelle sera l'issue finale, mais nous ne savons pas précisément quelles étapes auront lieu pour y arriver. Il va y avoir trois élections importantes en Europe qui auront lieu cette année. À partir du 15 mars, le 15 mars, les Hollandais vont devoir élire un nouveau dirigeant. Geert Wilders est un homme à surveiller, et il voudrait assurément faire sortir les Hollandais de l'Union Européenne. En fait, d'autres individus, s'ils étaient élus, voudraient faire de même. Et un peu après, nous aurons ensuite les élections françaises le 23 avril, il s'agira du premier tour. Et le second tour aura lieu le 7 mai. Les Français devront élire leur nouveau président, et Marine Le Pen est une personne que nous devons surveiller, qu'elle soit élue ou non. Mais nous savons qu'elle aimerait faire sortir la France de l'Union européenne. Nous avons ici deux pays israélites qui sont au bord d'un grand changement. Et en fait, si nous prenions les attentions de vote des gens maintenant, à la fois aux Pays-Bas et en France, nous voyons que beaucoup aimeraient quitter l'Union européenne. Ensuite, nous avons les élections allemandes le 24 septembre, afin d'élire un nouveau chancelier. C'est une date assez lointaine, particulièrement dans le monde politique. Le 24 septembre est assez loin, et il est trop tôt pour savoir exactement ce qui arrivera sur place et avec d'autres événements. Ce qui aura lieu aux Pays-Bas, ce qui aura lieu en France et d'autres événements pourraient changer la façon dont cela se déroulera. Nous avons un sentiment anti-Union européenne qui grandit. J'ai ici un article intéressant paru dans le magazine Maclean, daté du 12 décembre 2016. Je ne vais pas le lire en entier, mais le titre de l'article est « Une nouvelle ère d'hommes forts a commencé à poindre ». Un passage clé dit que de Vladimir Poutine, en Russie, jusqu'à Xi Jinping en Chine, en passant par Recep Erdogan en Turquie, le monde est soudainement dirigé par ce que l'expert en politique internationale Gideon Ratchman appelle le culte de l'homme fort. Et bien entendu, l'article entier parle de l'élection du président Trump, en l'incluant dans cette même catégorie. Ils s'admirent les uns les autres, alors même qu'ils se disputent la domination, en partageant la même susceptibilité, un ego démesuré, une puissance phénoménale, une immense richesse personnelle et une aversion pour les détracteurs, pour la presse libre et pour les opposants politiques. Je pense qu'il y a une déclaration intéressante ici. Cela montre que nous entrons dans une nouvelle ère. Nous entrons dans une ère où les gens cherchent des solutions pour des problèmes qui semblent insolubles. Nous avons déjà des guerres qui ont lieu au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, et c'est une époque dangereuse. De plus, voici aussi un autre article qui vient du site internet germanforeignpolicy.com, disant la semaine dernière que le programme télévisé de la gauche libérale, Panorama, critiquant le gouvernement, parlait de lancer un débat ouvert sur la bombe nucléaire allemande. Notez qu'il parle d'une bombe nucléaire allemande, car actuellement aucun pays ne peut avoir confiance dans le fait que les États-Unis et le président Trump défendront sans condition leurs alliés dans l'OTAN. Afin d'empêcher la Russie d'attaquer un membre de cette alliance dans cette situation, il est nécessaire d'avoir un contrôle national sur les armes nucléaires, affirment les auteurs de ce programme. De nombreux experts dans les think tanks et dans les médias et dans le domaine politique ont exprimé une opinion similaire, tout en se démarquant en demandant s'il faut placer le potentiel de guerre nucléaire soit sous l'autorité des organisations militaires de l'Union européenne ou sous le gouvernement allemand. Tout cela est plutôt de mauvais augure lorsque vous y pensez. Il est intéressant que M. Armstrong, même lorsque l'Allemagne était détruite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle n'était qu'un tas de ruines à l'époque, il avait dit que l'Allemagne se relèverait. Il proclamait avec force que non seulement elle se relèverait, mais aussi qu'elle recommencerait à exercer une influence politique et finalement, nous voyons ici, une influence militaire. Nous savons que cela doit se produire, car l'Allemagne assyrienne affrontera encore les États-Unis, et les États-Unis et la Grande-Bretagne. Pas seulement les États-Unis, mais la Grande-Bretagne, le Canada et les nations israélites seront renversées à cause de nos péchés. Nous voyons cela se rapprocher de plus en plus. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra, mais cela est en train d'arriver. En plus de ces problèmes dans le monde, nous avons assurément un changement de direction cette année dans l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas quelque chose qui nous réjouit, mais c'est une réalité. Lorsque vous recevrez ce sermon, car il s'agit d'un message enregistré il y a quelques semaines, il y aura peut-être eu d'autres changements. Et si ce n'est pas le cas, il est très possible que nous ayons un changement. Et les changements, de façon compréhensible, rendent les personnes nerveuses. Nous avons peur du changement. Nous ne savons pas ce qui arrivera. Nous avons de l'appréhension à ce sujet, et cela ne devrait pas être. Mais je comprends pourquoi certains ont des appréhensions sur un tel changement. Beaucoup d'entre nous nous souvenons ce qui arriva lorsque M. Herbert Armstrong est mort, et comment l'Église a fait une terrible sortie de route. Je pense que nous pouvons vous assurer que cela ne se reproduira plus. Mais le fait de le dire ne signifie pas forcément que vous accepterez cela. Je pense que nous verrons avec le temps que l'Église continuera sur la bonne voie. Monsieur Meredith, dès le début, a mis en place le Conseil des Anciens. Il pensait dès le début à la bonne façon de diriger l'Église selon les Écritures. Mais il reconnaissait qu'il fallait y avoir des avis avant de prendre des décisions, et il respecte fortement le Conseil des Anciens, et nous le respectons également. Lorsque vous entendez des gens dire des choses négatives à propos de ce qu'il se passe à Charlotte, et il y a toujours eu ce genre de critiques, ils ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent. Nous avons de l'harmonie au sein du Conseil, et cela depuis que j'en fais partie. Cela remonte à 1998, si je me souviens bien, depuis que j'en fais partie. Et je me souviens très bien la première fois, peu après avoir fait partie du conseil, je dînais avec M. et Mme Meredith ainsi qu'avec mon épouse. C'était pendant la fête des tabernacles à Lake the Ozarks, et Monsieur Meredith voulait savoir ce que je pensais si jamais quelque chose lui arrivait. Et cela remonte à de nombreuses années en arrière. C'était au tout début de l'église du Dieu vivant. Je ne me souviens plus exactement quelle année c'était, mais c'était 2 ou 3 ans après que j'ai commencé à faire partie du conseil. Et il voulait savoir ce que je pensais à cette occasion, et je lui ai dit qu'il y avait 4 hommes que j'appellerais des poids lourds au sein du conseil. Et je ne mentionnerai pas de nom, mais je dirai juste que 3 d'entre eux sont décédés, et ils n'ont pas survécu à Monsieur Meredith, et le quatrième a décidé de démarrer sa propre organisation lorsqu'il s'est senti offensé. Tout cela a donc changé beaucoup depuis cette époque. Mais le point que je veux expliquer ici est que Monsieur Meredith envisageait l'avenir très tôt. Il posait des questions, il parlait avec les gens pour essayer de savoir ce qu'ils pensaient. Et nous devons vraiment comprendre qu'en fin de compte, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Que nous y croyons ou non, c'est un point sur lequel Monsieur Meredith a mis l'accent à de nombreuses reprises dans le passé, et je suis certain qu'il le fera toujours. Jésus-Christ est la tête de l'Église et il est celui qui dirige les événements selon sa volonté et selon ses désirs. Et je suis très optimiste quant à l'avenir, en allant de l'avant, mais la raison pour laquelle ont lieu tous ces événements dans le monde et tout ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans l'Église, dans tout cela, nous devons rester proches de Dieu, en tant qu'individu et aussi en tant qu'organisation. L'appel pour ce jeune n'a en fait rien à voir avec les problèmes de santé de Monsieur Meredith. L'idée a été proposée par Monsieur Rod McNair pendant un de nos déjeuners de travail, car nous avons réalisé que nous devons avoir cette proximité avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir une crise pour nous approcher de Dieu. Nous devons être proches de Dieu en tout temps. Mais nous voyons que le monde est dans une situation dangereuse. Nous voyons qu'il y a un glissement dans notre société. Et ainsi, Monsieur Meredith a immédiatement vu la sagesse en appelant à un jeune. Et il a proclamé ce jeune, et nous avons ensuite fixé une date, nous sommes réunis, nous avons parlé à ce sujet, et nous nous sommes mis d'accord pour le 18 mars. Et vous voyez normalement ce sermon le 18 mars. Aujourd'hui, nous allons examiner 3 tentations du Christ. Et les leçons que nous pouvons tirer pendant ce jour spécial des tentations que le Christ a traversées. Je suis certain que vous pensez déjà à quel chapitre nous allons nous rendre, au 4e chapitre de Matthieu. Nous pourrions aussi lire Luc, le 4e chapitre également, lorsque le Christ alla dans le désert et jeûna pendant 40 jours. Lisons cela rapidement ici dans Matthieu 4. Et nous allons voir cela d'une façon que nous n'avons peut-être jamais beaucoup envisagé dans le passé, du moins comme je ne l'ai jamais vraiment présenté. Et cela est tiré en partie de commentaires bibliques, et je ne m'en attribue pas le mérite, mais ces informations sont bien soutenues par les Écritures. Les commentaires sont une plus-value seulement si leurs propos sont confirmés par les Écritures, mais dans le cas contraire, nous devons reconnaître qu'il s'agit seulement d'idées humaines. Nous lisons ici dans Matthieu 4, verset 1, que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Cela eut lieu peu après son baptême, et très peu de temps après, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ce fut la première tentation. Et la réponse que Jésus donna fut que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien entendu, il citait les Écritures ici. Puis le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus esquiva cette autre attaque. Satan citait les Écritures, mais en les sortant de leur contexte. Par contre, Jésus contre-attaqua avec un autre verset et il lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'était la deuxième tentation. La troisième se trouve au verset 8, lorsque le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus n'a pas nié le fait que le diable avait l'autorité de lui donner ces choses. Même s'il ne l'aurait peut-être pas fait après coup, car nous savons que c'est un menteur. Mais je suis sûr, je pense, que le diable aurait très bien pu donner ces choses, car cela aurait servi le but qu'il essayait d'atteindre. Il aurait pu détruire le Messie, le Fils de Dieu. Mais Jésus a répondu une fois encore en disant, et en ne citant pas tout de suite les Écritures cette fois-ci, il dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit », et il cita à nouveau les Écritures. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Après cela, le diable comprit qu'il avait perdu la partie à cette occasion. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Nous savons que ce ne fut pas la fin de la tentation du Christ, mais ce fut une chose très spéciale, et je pense qu'il est intéressant ici que Jésus démarrait une nouvelle période de sa vie. Il abordait ici la toute première étape de son ministère. Il y avait quelque chose de nouveau. Une nouvelle étape dans le ministère, et il s'éloigna afin de jeûner pendant un certain temps en reconnaissant l'importance d'être proche de Dieu. Nous allons maintenant regarder de plus près ces tentations, car il y en a qui voient une connexion entre ces tentations et 1 Jean 2. Reportons-nous à 1 Jean chapitre 2, puis au verset 15 à 17. Notez ce que nous allons lire ici. Nous allons aussi garder le passage actuel dans Matthieu. Laissez-moi trouver quelque chose pour me servir de marque-page ici, car nous allons y revenir régulièrement. Mais dans 1 Jean 2, au verset 15, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Il est mentionné ici trois choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous avons vu que Jésus fut tenté de trois façons différentes par le diable. Examinons un peu plus attentivement quelle fut la première tentation placée devant Jésus. Comme nous l'avons vu, Satan a dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus était très affamé à ce moment-là. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que si vous êtes affamé avec 40 jours sans nourriture et que vous avez la puissance de transformer une pierre en pain, il semblerait que ce soit peut-être la chose à faire, particulièrement lorsque vous avez quelqu'un vous encourageant à le faire. Mais Jésus savait de qui venait cette tentation. Il savait que ce n'était pas la personne à qui il allait obéir. Il n'y avait rien de mal à transformer ces pierres en pain. Et plus tard, par exemple, il a ainsi nourri 4000 et 7000 personnes, et vous savez qu'il avait seulement quelques tranches de pain. Nous savons que le Christ pouvait magnifier cela d'une manière ou d'une autre, mais il refusait d'obéir au diable. Il n'allait pas chuter en étant la proie de ses désirs, ni du désir impie de suivre ce que disait le diable. Car cela aurait été une forme de convoitise, la convoitise de la chair. La nature charnelle qui désire quelque chose, et devenir une proie en cédant à cette requête. Lorsque nous regardons la deuxième tentation, la deuxième qui est mentionnée dans 1 Jean 2, il s'agit de la convoitise des yeux. Il est peut-être un peu plus difficile de faire une comparaison, mais je pense qu'il y a une comparaison à établir ici, entre les deux. Car la deuxième tentation était, je lis ici, il le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains, ils te sauveront, un miracle aura lieu. Tu n'as pas à avoir peur de mourir en t'écrasant au sol, car ils te sauveront. Regarde, et ce miracle arrivera. Tu verras ça de tes propres yeux, façon de parler. » Nous verrons pourquoi je dis cela dans quelques minutes. Mais il s'agissait de la deuxième tentation. Voyons quelle était la troisième. En retournant à 1 Jean, la troisième est l'orgueil de la vie, et c'est la troisième tentation qui a été placée devant le Christ lorsque Satan lui dit que tous les royaumes de la terre lui appartiendraient. Il fut aussi tenté dans son orgueil lorsque le diable, dans ses trois tentations, essayait de toucher sa fierté, ou de lui faire ressentir un sentiment de vanité, en disant « Si tu es le Fils de Dieu ». Ici, le diable lui dit clairement, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai la puissance, je te donnerai la richesse, je te donnerai la célébrité, toutes ces choses que tant de gens sur la terre de nos jours voudraient avoir. Mais il savait que Satan connaissait la nature humaine. Il savait qu'il pourrait influencer une personne normale avec cela. Et Satan espérait pouvoir influencer le Fils de Dieu. Mais il échoua à nouveau avec cette tentative. Voyons maintenant, car d'autres voient un lien entre cet événement et ces tentations et l'Exode. Il s'agit d'un lien très puissant, comme nous allons le voir. La première tentation, à nouveau, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais, comme Jésus l'a dit, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'où le Christ tirait-il ce passage? Où trouvons-nous cette phrase dans les Écritures? D'où cela vient-il? Allons voir au 8e chapitre de Deutéronome, et au verset 3. Deutéronome 8 et verset 3. Il t'a humilié. Il t'a humilié, Dieu parle ici à travers Moïse aux enfants d'Israël. Il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il est intéressant de noter qu'il les laissa errer dans le désert. Voyons au verset 2, je cite, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver. » 40 années pour les humilier et les éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Et nous voyons qu'il les humilia et qu'il les laissa avoir faim, au moins jusqu'à un certain degré. Mais il les nourrit avec la manne, afin qu'il sache que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je pense que nous pouvons commencer à voir un lien important ici avec les 40 années de tentation dans le désert. Nous avons une épreuve ici, et nous avons d'autre part Jésus, qui fut éprouvé pendant 40 jours et 40 nuits de jeûne, pendant la même période de temps, si nous considérons l'analogie d'une année pour un jour, comme c'est le cas. Et nous pouvons voir la connexion sur le fait de ne pas vivre de pain seulement, car la manne leur était donnée. Ils n'avaient pas tout ce qu'ils souhaitaient, mais Dieu les testa avant même de leur donner la manne. Il essaya de voir ce qu'il y avait dans leur cœur. Nous avons maintenant la deuxième tentation, qui était de se jeter dans le vide et que les anges le rattraperaient. Jésus cita un autre verset. Voyons à nouveau dans Matthieu, de retour à Matthieu au chapitre 4. Et au verset 7, nous lisons ici, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » D'où Jésus tirait-il ce verset? Retournons encore au livre de Deutéronome, au 6e chapitre. Et notons bien ce qui est écrit au verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Comme il l'avait tenté à Massa. Nous verrons cela un peu plus en détail dans quelques temps. Mais pour l'instant, nous établissons seulement une vue d'ensemble, puis nous verrons plus en détail tout cela. Mais notez ce qui est écrit. Comme vous l'avez tenté à Massa. Nous ne devons pas tenter Dieu de cette façon. Et nous allons voir le lien entre cela et le fait de se jeter dans le vide, ou la convoitise des yeux, dans quelques minutes. La troisième tentation était d'adorer le diable, et le Christ répliqua en disant qu'il adorerait seulement, ou que nous devons adorer seulement Dieu. Il basa cela sur le même chapitre dans Deutéronome 6, verset 13. « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Autrement dit, tu te reposeras sur Dieu et sur personne d'autre. Tu dois craindre uniquement Dieu. Puis ensuite, au chapitre 10, nous voyons encore cela, dans Deutéronome 10, au verset 20. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Très clairement, c'est ici la source que le Christ citait. Il citait le livre de Deutéronome. Et tout cela est en rapport avec la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, 40 années, 40 jours de jeûne. Être tenté par la faim, Et le Christ fut tenté par la faim au moment de transformer les pierres. Dieu leur donna la manne et le diable tenta le Christ en lui disant de transformer les pierres en pain. Nous avons ici la convoitise des yeux. La convoitise des yeux que nous examinerons en détail dans quelques minutes. Puis il y a l'orgueil de la vie, montrant que nous devons uniquement servir Dieu. Nous voyons un lien direct ici. Voyons chacun de ces tentations un peu plus en détail. La première était liée à l'appétit physique. Nous pourrions dire à l'estomac. Et si vous jeûnez aujourd'hui, vous avez probablement un peu faim. Et notre souhait, lorsque nous avons faim, est de manger. Lorsqu'un petit enfant a faim, il pleure et il veut du lait. Il veut quelque chose à manger tout de suite. Et lorsque nous sommes des enfants un peu plus âgés, nous sommes toujours râleurs lorsque nous n'avons rien à manger. Et même à l'âge adulte, lorsque nous n'avons rien à manger, nous pouvons râler un peu, peut-être car l'épouse n'est pas rentrée à l'heure ou nous sommes en retard pour le petit déjeuner. Beaucoup de choses peuvent arriver. Et nous sommes un peu râleurs lorsque nous avons faim. Et la vie est faite ainsi. Mais Dieu veut que nous contrôlions cet appétit. Il veut que nous contrôlions tous nos appétits. Et lorsque nous parlons d'appétit, il ne s'agit pas seulement de la nourriture, mais aussi d'appétit pour autre chose, comme l'appétit sexuel, ou bien l'appétit pour des substances dont nous pourrions abuser, comme l'alcool ou les drogues. Aussi, manger beaucoup trop, il n'y a pas de mal à manger, mais nous pouvons nous gaver de nourriture. Et tous les goinfres ne sont pas obèses. Vous pouvez aussi avoir des goinfres qui sont maigres. Quand je grandissais, je mangeais beaucoup plus que ce que j'aurais dû, et je n'avais pas à m'en préoccuper. Je n'avais pas vraiment à faire attention lorsque j'étais plus jeune. Je dois faire attention maintenant, mais pendant beaucoup d'années, je pouvais manger tout ce que je voulais sans prendre de poids. Vous pouvez donc être un goinfre maigre ou un goinfre obèse. Notez ce qu'il est écrit dans Proverbe 23. Proverbe 23. Et ce sont des choses sur lesquelles nous devons nous évaluer, car le but du jeûne n'est pas seulement d'avoir faim. Ce n'est pas une façon d'attirer l'attention de Dieu pour lui dire regarde ce que je fais pour toi, et tu dois donc faire quelque chose maintenant pour moi. Non, le but du jeûne est de nous humilier. C'est un examen de soi. Il s'agit d'identifier où sont nos fautes et où sont nos faiblesses, afin d'implorer Dieu pour qu'il nous donne la force de les vaincre, et que nous ayons la force de croître vraiment dans le caractère spirituel décrit ici, dans Proverbe 23 et au verset 19. C'est un conseil donné par Salomon à son fils. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Une fois, j'ai vu ce passage en application dans ma vie. Il est dit de ne pas se mêler avec des buveurs de vin et ceux qui font excès de viande. Et vous savez, la viande ici peut simplement signifier la nourriture physique en général. Je me souviens avoir visité une fois un membre prospect quelque part. Quelque part ici en Caroline, je ne sais plus exactement où, je crois en Caroline du Sud, je ne suis plus certain. Et cet homme nous emmena dans son jardin et il avait un immense barbecue, vraiment immense. Et il organisait des fêtes où ses amis venaient et il se gavait littéralement de viande. Et je n'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Mais il y a des gens comme cela qui se gavent de viande et de boissons. Ils font de grandes fêtes. Et ce n'est pas comme votre barbecue habituel dans votre jardin. Celui-ci faisait au moins 2,50 m de long sur 1,30 m de large. Et globalement, leur fête consistait juste à manger de la viande et à boire. C'était assez spécial à voir. Mais nous devons faire preuve de modération dans tout ce que nous faisons. Et j'ai remarqué, par exemple, que si je bois un verre le soir, je suis vite fatigué et j'ai envie de faire une sieste. Je ne parle pas ici de boire en excès, mais juste d'un verre de vin ou une boisson similaire. Ce n'était pas le cas quand j'étais plus jeune, mais maintenant que je suis plus vieux, j'ai souvent envie de faire une sieste après coup, ou juste de me reposer sur le canapé. Mais si nous abusons, trop de nourriture ou trop d'alcool, cela peut nous conduire à la pauvreté. C'est un avertissement pour faire un bon usage de ces choses. Il n'y a rien de mal à manger de la viande, il n'y a rien de mal à boire un verre de vin ou un verre de bière, mais nous devons être très prudents. Et si nous consommons ces choses, nous devons être capables de nous réguler nous-mêmes. Nous devons nous demander si nous contrôlons notre appétit physique, si nous contrôlons ce que nous mangeons, le type d'aliments que nous mangeons. Certains aliments ne sont pas bons pour nous, comme les choses trop sucrées et les grandes quantités de sucre. Trop de sucre. Et si vous allez, par exemple, dans les restaurants en self-service, de nos jours, ceux avec des buffets à volonté, je pense que beaucoup d'entre nous aimons cette formule, même si certains n'aiment pas, mais beaucoup de personnes âgées notamment aiment ces buffets, car c'est une bonne affaire financièrement. Mais avez-vous noté que beaucoup de gens remplissent leur assiette à ras-bord, puis ils arrivent au dessert, et ils ne prennent pas une petite assiette à dessert, mais ils reprennent une grande assiette qu'ils remplissent à fond. Et parfois, ils se resservent même une deuxième fois. Ces choses ne sont pas bonnes pour notre santé physique. Ce n'est pas bon pour notre caractère. Nous devons savoir nous contrôler. Et nous devons reconnaître qu'il faut faire preuve de modération en toute chose. Et quand je dis en toute chose, je pense que vous comprenez cela. Je parle ici de toutes choses qui sont bonnes en modération. Je ne dis pas que tout devrait être mangé. Comme la parole de Dieu nous le montre, même ce que nous pouvons manger doit être consommé avec modération. La Bible dit que nous devons manger seulement un peu de miel, ne pas en abuser. Dans Apocalypse, au chapitre 21, Apocalypse 21 et au verset 8, un verset très familier que nous avons lu plusieurs fois, même ces derniers temps, il est question de vaincre d'abord au verset 7, et celui qui réussira héritera toute chose. Et je pense que nous devons avoir cela à l'esprit. Quelque chose que nous attendons, quelque chose que nous allons hériter, si nous sommes patients. Mais il y a aussi ceux qui n'hériteront pas toutes ces choses. Il s'agit ici des lâches, des incrédules, des abominables, des meurtriers, des débauchés, des magiciens, des idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Regardons de plus près ici, par exemple. Les meurtriers sont des gens qui ne sont pas capables de contrôler leur colère. Les gens tuent pour différentes raisons, mais la colère est une des raisons principales. D'autres tuent juste par plaisir, et il y a des gens comme cela dans la société, ce qui est difficile à comprendre, mais ils sont tellement pervertis qu'ils font ce genre de choses. Autrement dit, ils ne contrôlent pas leurs émotions ou leurs appétits. Les débauchés ont des envies sexuelles qui sont... des envies qui sont la convoitise de la chair, en d'autres termes. Et vous voyez, même le Christ était un être sexué, car il était un homme. Il avait les mêmes hormones que n'importe quel homme, mais il contrôlait ses désirs sexuels. Et de nos jours, beaucoup de gens ne les contrôlent plus. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, cela existait déjà au premier siècle. Lorsque j'ai visité la ville de Pompéi, je n'ai pas visité la partie du musée consacrée à la luxure et à la débauche qui existait dans cette ville. Mais l'apôtre Paul débarqua non loin de là lorsqu'il se rendit à Rome. Et c'était une grande ville à l'époque. Mais elle fut ravagée par un volcan, le Vésuve, le volcan qui détruisit la ville. Et Pline l'Ancien, je crois, est mort dans cette ville, et beaucoup de gens célèbres sont morts dans cette ville. Mais cette ville était réputée pour sa liberté sexuelle, tout comme Sodome et Gomorre. Et nous vivons à une époque qui est bien différente de ces époques anciennes, même s'il y a toujours eu des problèmes avec les gens qui ne peuvent pas contrôler leurs désirs sexuels. Ils ne contrôlent pas leur faim ou leur appétit dans ce domaine. Les magiciens sont également mentionnés ici, parfois traduits par les enchanteurs ou les sorciers dans d'autres versions. Et dans ce cas précis, le mot sorcier vient du grec pharmakeus ou pharmacie, C'est la même origine. Trois mots sont utilisés dans le Nouveau Testament pour décrire la magie, ou pour décrire la sorcellerie. Et tous les trois sont plus ou moins le même mot. Il y a de légères nuances, mais ils viennent du mot désormais traduit par pharmacie. À une certaine époque, nous avons pu penser que nous ne devions pas prendre de médicaments que les médecins pouvaient nous prescrire. Mais je pense que ce n'est pas du tout à cela qu'il est fait référence ici. Lorsque nous considérons notre époque, nous pouvons vraiment voir pourquoi ce mot en particulier est utilisé, car il y a un appétit démesuré dans notre société occidentale pour ce que nous appelons désormais les drogues récréatives. Nous voyons de plus en plus de pays légaliser le cannabis, et certaines personnes disent qu'il n'y a pas de différence entre cela et de l'alcool. Mais l'alcool peut être un aliment. Il peut certes y avoir un usage médical pour le cannabis, et je ne dis pas le contraire, mais les médecins ne prescrivent pas un usage sous forme de cigarette. Lorsque les gens fument du cannabis, cela endommage extrêmement leurs poumons et leur corps. Et c'est aussi un tremplin pour l'usage d'autres drogues. Et nous avons un immense problème avec les drogues dans notre société. Malheureusement, il y a même des jeunes dans l'église qui sont curieux à ce sujet et qui veulent essayer. Nous pouvons tous comprendre cette curiosité, mais nous devons aussi comprendre que nous ne pouvons pas nous permettre de céder à ces tentations, car elles peuvent avoir des effets très néfastes sur notre vie. Et pour un court instant, pour une courte expérience à tenter, cela peut créer des séquelles pour la vie entière, voire conduire à la mort. Nous devons reconnaître que c'est une partie du problème. Mais toutes les choses mentionnées ici, particulièrement le meurtre, la débauche, la sorcellerie, ces choses sont des convoitises de la chair. Pas toutes les choses mentionnées ici, mais la plupart. À présent, dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, certains vices doivent être évités. Nous lisons au verset 9 « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez. Regardez combien de ces choses sont en lien avec la convoitise de la chair. Nous avons ici l'adultère, la fornication, l'homosexualité ou la sodomie, la cupidité, l'ivrognerie. Et toutes ces choses sont en rapport avec la convoitise de la chair. Si Satan avait pu essayer, même s'il ne fut jamais capable de persuader le Christ, mais Satan poursuivit le Christ avec les appétits de la chair. Dans ce cas présent, il s'agissait de la faim, car il était affamé. Nous ne devons pas imaginer qu'il ne fut jamais tenté par d'autres façons, à d'autres moments, avec d'autres appétits, car il fut tenté en toutes choses, comme nous le sommes, dans chaque catégorie de péché, comme nous le sommes. Pas pour chaque péché qui peut être commis, mais dans chaque catégorie de péché. Il fut tenté en termes de nourriture. Il fut tenté de manière sexuelle, d'une manière ou d'une autre. Nous ne savons pas exactement comment, mais nous pouvons imaginer qu'en tant qu'être humain, il devait contrôler ce désir, comme nous devons tous nous contrôler. Et il fut tenté en tout point comme nous le sommes, mais il ne pécha pas. Dans Galates, au chapitre 5, nous avons ici les œuvres de la chair. Nous lisons au verset 19 dans la version Osterwald, dans Galates 5, 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère. Il s'agit à nouveau de la convoitise de la chair. La fornication, même chose. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements. » Et nous retrouvons ce mot. « Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, etc. » Puis les meurtres, les ivrogneries au verset 21. La convoitise de la chair. Nous devons lutter contre ces choses. Nous devons contrôler ces choses. Maintenant, que pouvons-nous dire sur le fait que Jésus fut transporté au sommet du temple et est tenté à se jeter dans le vide et que les anges viennent le sauver? Comment cela est-il lié à la convoitise des yeux? Cela semble un peu tiré par les cheveux en apparence. Allons voir dans Exode, au chapitre 17. Exode 17. Car c'est à cela qu'il est fait mention dans ce contexte. C'est à cela que le Christ fait mention. Lorsqu'il a dit « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Ici, au verset 1, nous lisons que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Moïse comprenait clairement que ce n'était pas après lui qu'ils en avaient, mais plutôt qu'ils tentaient Dieu. Ils remettaient en cause la capacité même de Dieu à subvenir à leurs besoins. Ils avaient déjà vu la mer Rouge être ouverte en deux, ils avaient vu la mort des premiers-nés, ils avaient vu tous les miracles pendant les plaies en Égypte, et cela n'était pas très ancien. Mais ils remettaient ici en question le fait que Dieu puisse leur fournir de l'eau, alors qu'il manquait d'eau. Le peuple se plaint auprès de Moïse en disant « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple ?» Il était totalement frustré, il ne savait pas quoi faire. « Que ferai-je avec ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il le fit à la vue de tous ceux qui étaient présents. Et il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. Ces mots signifient tentation et contestation, ou tentation et querelle. C'est à ces versets que les Écritures, dans Deutéronome, font référence, en parlant de cette époque. En d'autres termes, dans cette situation, ici, il remettait en cause la capacité même de Dieu, en disant « Nous voulons te voir, nous procurer, nous fournir de l'eau. Nous avons soif, nous en avons besoin, et nous ne pensons pas que tu peux nous en fournir, ou nous nous demandons si tu es capable de nous fournir de l'eau. » Le litige était très grand ici. Vous pouvez vous imaginer un grand groupe de gens dans cette situation, et à quel point la situation devait être tendue. Et donc ce lieu fut appelé Massa et Meriba, ou contestation et tentation. C'est ce qu'il s'est produit à cette occasion. Cela a un lien avec le fait de se jeter dans le vide comme Lucifer, ou plutôt Satan le diable, le dit à Jésus. « Jette-toi dans le vide et vois. Attendons et voyons comment les anges te rattraperont. » Il y a un certain rapport dans cette situation, dans l'Ancien Testament, avec le Christ, et avec le passage qu'il a cité à leur sujet. Nous ne devons pas tenter le Christ ou tenter Dieu. Notez encore dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens 10, verset 9. « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux. » Et le verset précédent parle en fait des appétits physiques, de ne pas commettre de péchés sexuels comme certains d'entre eux le faisaient. « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents, ne murmurez point, etc. » Et nous devons être prudents à ne pas tenter le Christ. C'est une chose de tester Dieu d'une certaine manière. Et il y a en fait une bonne façon de tester Dieu et une mauvaise façon de tester Dieu. Parfois, il y a des gens qui sont en colère contre Dieu car ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Je comprends cela. Et je pense qu'il est facile parfois d'être en colère contre Dieu. J'ai parfois eu ce sentiment il y a très très longtemps, mais certaines choses arrivent dans la vie. et il est facile de laisser cela arriver pendant une courte période de temps. Mais vous devez rapidement reprendre le contrôle et vous devez avoir la vue d'ensemble et voir que Dieu est en charge de la situation. Les enfants d'Israël ne faisaient pas confiance à Dieu. Et donc ils contestaient avec Dieu. Ils disaient, nous voulons cela tout de suite et nous voulons que tu nous le donnes. Nous voulons voir que tu es vraiment avec nous. Même s'il avait déjà été avec eux tout le temps depuis qu'ils étaient en Égypte et qu'il les en avait fait sortir. Parfois, les gens sont en colère contre Dieu et ils gardent cette colère pendant longtemps. Cela est très destructif contre eux-mêmes. C'est la même chose en étant en colère contre quelqu'un, mais nous devons être particulièrement prudents à l'égard de Dieu. Nous savons que Dieu nous aidera lorsque nous le testons de la bonne manière. Voyez comment le tester de la bonne façon en allant dans Malachie au 3e chapitre et au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Éprouvez-moi ou testez-moi à ce sujet. Il y a une différence entre cela et ce que firent les enfants d'Israël. Mais quelle est au juste cette différence? Dieu dit, obéissez-moi et vous me testez en m'obéissant. Vous faites ce que je vous dis de faire et voyez si je ne vous réponds pas en retour. Voyez si je ne vous réponds pas. Mais les enfants d'Israël ne croyaient pas en Dieu. Ils lui disaient qu'il devait agir en premier. Mais le Christ dit de faire preuve de foi, de faire ces choses, puis nous verrons. Il ne faut pas avoir de foi, en fait, si Dieu ne nous dit pas d'abord de le tester ou de l'éprouver. Il y a une énorme différence entre cette façon de tester Dieu et la façon dont les enfants d'Israël agirent, la façon dont ils testèrent Dieu. Nous testons ou nous éprouvons Dieu en faisant preuve de foi. C'est une chose positive. Nous faisons notre part et si Dieu dit fais ceci, ok, nous le faisons. Si je dois garder le sabbat, je garderai le sabbat, même si mon employeur me dit qu'il me licenciera. Et vous observez le sabbat et par conséquent, votre employeur vous met à la porte. Mais vous voyez que Dieu prend soin de vous en vous donnant par la suite un meilleur travail. Et nous devons apprendre des leçons dans ces situations. Je me souviens d'un homme qui, en fait, a testé Dieu, qui a testé Dieu de cette façon. Il en parla dans un speech pendant un club des orateurs, donc je n'ai pas de problème à le répéter ici. Je ne mentionnerai pas de nom, mais il se reconnaîtra, et certaines personnes dans ce club s'en souviendront, et ils me pardonneront si je ne rapporte pas précisément chaque détail. Mais en gros, cet homme quitta l'église pendant la période difficile de l'éclatement de l'église universelle. Il perdit son emploi et pendant 2 ans, il ne pouvait pas trouver de travail car personne ne répondait à ses demandes. Il envoyait des CV partout, mais personne ne lui répondait. Il ne reçut même pas un seul coup de téléphone pendant 2 ans. Mais pendant ces 2 années, il recommença à travailler sur sa vie spirituelle, en prouvant à nouveau les choses. Dieu lui donna du temps, en étant au chômage, afin qu'il puisse savoir où il devait être et qu'il puisse repartir sur de bons rails. Dieu aimait cet homme. Dieu n'abandonne pas les gens. À chaque fois qu'ils partent, Dieu travaille avec eux, et parfois nous répondons, parfois pas. Mais dans ce cas particulier, Dieu lui retira quelque chose, il lui retira son travail. Mais il reçut quelque chose de beaucoup plus grand. Nous pouvons nous dire que Dieu nous a donné un travail ou autre chose, mais il ne fit pas vraiment cela. Il reçut finalement un petit chèque, un petit paiement. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une indemnité chômage ou autre chose, mais il comprit qu'il devait revenir vers Dieu. Et il paya sa dîme sur cette petite somme d'argent. Il se mit à genoux et il pria Dieu en disant, Dieu, j'ai fait ma part. Que feras-tu en retour? Et je suis certain qu'il demanda cela avec respect. Je ne sais pas exactement les mots qu'il utilisa, mais 24 ou 48 heures plus tard, il avait 4 bonnes offres d'emploi. 4. Et juste avant cela, pendant 2 ans, il ne trouvait absolument rien. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il sait s'il va nous éprouver pendant quelques jours sans eau, afin d'édifier quelque chose en nous. Et s'il voit que nous lui faisons confiance et que nous continuons à croire en lui, il interviendra à notre égard. Il prendra soin de nous. Jésus a établi un exemple en endurant la tentation. dans Hébreux au chapitre 2 et au verset 18. Hébreux 2. Et au verset 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté ou éprouvé, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a traversé toutes ces tentations, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il a traversé tout cela avant nous. Et ainsi, il comprend bien lorsqu'il nous dit que nous devons faire de même. Il nous dit que nous devons aussi résister à la tentation. Notez un peu plus loin dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Il a traversé ces tentations en nous montrant la voie, en montrant qu'avec l'aide de Dieu et avec l'aide de l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons vaincre ces tentations. Nous échouons régulièrement et nous savons cela. Mais nous pouvons vaincre ces choses en fin de compte. La troisième tentation implique l'orgueil, la puissance, les responsabilités et la gloire. Nous voyons souvent cela dans l'Église de Dieu. Cela surgit de temps à autre, et cela ne concerne pas forcément tout le monde. Mais nous voyons qu'il y a toujours des individus qui ne veulent pas laisser Dieu faire les choses en son temps. Ils veulent agir à leur manière et en leur temps. Satan éprouva Jésus en remettant en question qui il était, en lui disant « Si tu es fils de Dieu ». Et Jésus aurait pu lui répondre « Oh, attends, je vais te montrer ». Mais il ne le fit pas. Il comprenait la tactique utilisée contre lui lorsque Satan le diable lui disait « Je te donnerai tous ces royaumes ». Et Jésus n'a jamais dit le contraire. Il n'a jamais contesté le fait qu'il n'avait pas cette autorité en disant « Tu ne peux pas dire cela, car tu n'as pas cette autorité. » Non, il répondit simplement en disant qui il allait adorer, qui nous devrions adorer, qui il adorerait et personne d'autre. L'orgueil et le désir d'avoir un poste, d'avoir de la puissance, d'être célèbre, est une force très puissante dans la nature humaine. Dans Proverbe 11 et au verset 2, Proverbe 11, verset 2, nous lisons ici « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. » Combien de fois, au fil des ans, j'ai souhaité que certaines personnes puissent comprendre cela. Parce que la plupart des choses que nous voulons dans cette vie, Dieu nous les donnera si nous sommes prêts à attendre que cela se fasse en son temps, et si c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Si quelqu'un veut être un chanteur et qu'il n'a aucun talent dans ce domaine, Dieu ne lui donnera pas forcément ce talent, car ce n'est pas le genre de don qu'il lui a donné à la naissance. Certaines personnes n'ont pas ce don, tout simplement. Beaucoup de travail pour y arriver, mais certains ne seront jamais de bons chanteurs, de même que certains ne seront jamais l'athlète le ou la plus rapide du monde. Certaines personnes peuvent courir vite, d'autres non. Peu importe comment vous vous entraînez, beaucoup d'entre nous ne seront jamais rapides. Nous n'avons pas ce don. Mais Dieu donnera les choses qui sont bonnes pour nous si nous sommes prêts à être patients pour les recevoir, si cela fait partie de son plan et de son but. Notez plus loin au chapitre 13 et au verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Le diable est rempli d'orgueil. Nous pouvons lire dans Ésaïe et dans Ézéchiel combien il voulait quitter, son état premier, comment il voulait renverser Dieu. Et il disait ah, « Je serai ceci, je serai cela » et nous connaissons bien ces passages dans les Écritures. Je ne vais pas me reporter à ces versets par manque de temps, mais Satan était imbu de lui-même. Et il incita ceux autour de lui également afin qu'il ne soit pas déchu de son trône. Il essaya, mais il échoua, car il voulait cette chose et il la voulait tout de suite. Il veut placer ce même état d'esprit en nous, en tant qu'individu. Le fait que nous avons été choisis et que nous mériterions quelque chose que nous ne devrions pas avoir. J'ai vu cela avec des petites choses. comme un poste dans un club des orateurs, souvent le rôle de président, ceux qui pensent qu'ils auraient dû être président, ou ceux qui se disputent pour être le trésorier, pour donner les cantiques, ou même ceux qui se battent pour préparer le café, pour s'occuper de la cafetière, etc. Et dans tous les cas, dans tous ces cas-là, l'orgueil est en jeu pour obtenir de la puissance. Mais franchement, quelle puissance y a-t-il à pouvoir distribuer des livres de cantiques ? Est-ce vraiment une grande chose ? Certains pensent qu'ils devraient pouvoir faire ceci ou faire cela, ou qu'une autre personne a pris leur travail. Et les ministres doivent sans arrêt gérer ce genre de situation. Lorsque vous redistribuez des rôles, et certaines personnes se sentent blessées. Je me souviens d'un homme qui était le seul membre baptisé dans une congrégation en particulier. Et on lui demanda donc de faire beaucoup de choses. Mais lorsque d'autres personnes vinrent, nous avons voulu les préparer et leur donner l'occasion d'aider avec certaines tâches. Et cela vexa cet homme. Il finit même par quitter l'église, car il avait pensé qu'il était lésé, car il n'avait plus toutes ces choses qui lui appartenaient, selon lui, et il ne voulait pas partager cela avec d'autres. Satan savait ce qu'il faisait lorsqu'il tenta le Christ, car cela aurait été un homme normal à sa place, il aurait probablement échoué pour obtenir tout le prestige, toute la puissance, toutes ces choses qu'il était possible d'avoir. Au quatrième chapitre de Jacques, dans Jacques 4, c'est intéressant ici car il écrit au peuple de Dieu, mais il dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ?» au verset 1. « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Puis il ajoute « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » La motivation est mauvaise. Il continue ensuite « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être un ami du monde se rend ennemi, ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Nous voyons ici que lorsque nous manquons d'humilité, lorsque nous sommes remplis d'orgueil, tout va de travers. Cela ne fonctionne pas. Dieu veut pourtant nous donner tant de choses. Il veut nous donner l'univers entier. Et que pourrions-nous avoir sur cette terre actuellement qui soit aussi important ? Si nous n'obtenons pas telle ou telle responsabilité, quelle importance ? Tout ce que nous obtiendrons dans le royaume de Dieu est tellement plus grand que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Regardez, lorsque vous pensez à la fin de la vie, et maintenant j'y pense beaucoup plus alors que j'avance en âge, mais une personne, cette personne s'endort, et ce n'est même pas un instant, mais bon, appelons ça un instant parce que nous n'avons pas d'autres mots. En un instant, la personne fait partie de la résurrection, comme vous le savez. Il a pu se passer un millier d'années, mais vous n'en êtes pas conscient, je n'en serai pas conscient. Tout ce que nous devons savoir, c'est que dès que nous nous endormons, boum, la prochaine chose que nous voyons, c'est le royaume de Dieu. Et d'entendre le Christ nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, voici ce que je te donne. » Et Dieu donnera à chacun d'entre nous beaucoup plus que tout ce que nous pourrions avoir pendant cette vie. C'est pourquoi il est si important que nous voyons les choses dans cette perspective. Si quelqu'un s'approche de vous aujourd'hui et vous dit « Je vais vous donner 10 millions de dollars ou d'euros si vous faites ceci ou cela. Transgressez juste le sabbat une seule fois. Ou travaillez juste une heure pendant le sabbat. Et je vous donne 10 millions de dollars. » Nous pouvons tous dire « Oh, je ne ferai jamais cela. » Mais je pense qu'il y en a parmi nous qui feraient cela. Et nous pourrions tous être surpris de qui le ferait. Les tentations de la puissance de la gloire, d'un poste, de la célébrité ont une influence très forte sur l'humanité. Et c'est cela qui a fait chuter Satan. En allant au psaume 75, c'est quelque chose que nous avons beaucoup entendu à l'Ambassador College, car il y avait beaucoup de jeunes sur place. Beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie, beaucoup de désir de faire ses preuves à bien des égards. Et ces versets nous étaient souvent rappelés, car nous devions faire la part des choses. Nous lisons ici au verset 5. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. La tête étant ici un symbole de force. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Ne soyez pas arrogants, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert ou du Sud que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu est le juge. Et Jésus comprenait cela. Il savait qu'il aurait des choses difficiles à traverser pendant sa vie physique, mais il n'était pas prêt à abandonner ce qu'il avait auprès du Père, juste pour un court instant de célébrité ou de gloire sur la terre. Le diable aurait pu lui donner immédiatement cela. Mais il savait que ce n'était pas la bonne direction à prendre. Il fit toujours confiance à Dieu, et Dieu doit toujours venir en premier. Dans Exode, au chapitre 20, avant les 10 commandements, il y a une déclaration que nous lisons souvent trop rapidement, mais qui est vraiment très très importante, car elle pose une base pour tout ce qui va suivre. Au verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Puis il énumère les commandements. Mais cela fait aussi partie des commandements dans un sens, car Dieu est l'autorité. Il est celui que nous devons adorer, celui à qui nous devons donner notre cœur. Notez encore dans Matthieu, au chapitre 19, dans Matthieu 19 et au verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il voulait donc avoir la vie éternelle. C'est ce que vous voulez et c'est ce que je veux. C'est notre espérance, c'est notre raison d'être, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Cela semble assez simple, cela lui semblait assez simple, et il demanda à Jésus: Lesquels? Et Jésus cita quelques commandements. Puis au verset 10, le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Certaines personnes pensent ici que Jésus lui donna un 11e commandement. Mais ce n'est absolument pas le cas. Il se reporta juste au tout premier commandement et au 10e commandement. De ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face et de ne pas convoiter. Et donc ici, il lui répondit: Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, de grandes richesses. Si vous ne possédez pas grand-chose, il est souvent plus facile de tout abandonner. Mais si vous avez beaucoup, vous ne voulez pas vous en séparer. J'ai remarqué que les gens qui ne possèdent pas grand-chose ont parfois tendance à être plus généreux, que ceux qui sont plus riches. C'est surprenant, mais les choses sont ainsi. Et je ne condamne ni l'un ni l'autre, c'est juste la nature humaine. Et peut-être que la personne pauvre, si elle devenait riche, agirait comme ce dernier. Mais dans ce cas spécifique, cet homme voulait obtenir la vie éternelle. Il voulait ce que vous voulez, il voulait ce que je veux obtenir. Mais était-il prêt à abandonner son Dieu? C'est une chose difficile que de savoir, de connaître qui est votre Dieu, physiquement parlant. Quel est-il? S'agit-il des réseaux sociaux? Est-ce la télévision? Est-ce le fait que vous buvez trop? Quel est-il? Est-ce quelque chose qui limite votre relation avec Dieu? Car si c'est quelque chose qui empêche votre relation avec Dieu, alors c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu devant le vrai Dieu. Veuillez vous reporter au chapitre 14 de Luc, dans Luc 14. J'ai déjà mentionné cela auparavant et j'ai dit à de nombreuses reprises que, à mon avis, c'était un des versets les plus effrayants, ou effrayant n'est pas vraiment le mot, mais disons un des versets donnant le plus à réfléchir dans toute la Bible. Nous lisons ici au verset 26, dans Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer, en comparaison, c'est-à-dire qui aime moins, son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Le Christ ne se contentera pas d'être dans notre vie le numéro 2, et Dieu non plus. Dieu le Père et Jésus-Christ doivent venir avant toute chose dans notre vie. Le but d'un jeûne n'est pas de nous mettre en avant et de nous dire combien nous sommes justes parce que nous ne mangeons pas et que nous ne buvons pas pendant une certaine période de temps. Le but du jeûne est de nous humilier, de cesser de regarder ce que font les autres et de nous regarder dans le miroir en nous disant « ce que je fais n'est pas correct ». Qu'est-ce que je dois changer ? Dieu, pardonne-moi, quelle que soit la chose, de ce qui me retient de te servir davantage. Cela prend du temps pour en arriver là, mais avec la faiblesse associée à la faim et à la soif, nous finissons par réaliser que nous ne sommes vraiment pas grand-chose. Il suffit que nous n'ayons pas de nourriture ni d'eau pendant quelque temps, et nous savons ce que nous sommes. Et nous ne sommes rien. Dieu veut que nous reconnaissions cela, mais il veut aussi que nous reconnaissions qu'il a en réserve pour nous une récompense qui dépasse tout ce que notre esprit peut réussir à comprendre. Il a cela en réserve pour nous. Parfois, je disais auparavant que, indépendamment de Dieu, je ne vaux pas beaucoup plus qu'une bactérie au fond de ma chaussure. C'est là ma vraie valeur. Mais cela peut être sorti de son contexte, et cela a été pris hors de son contexte. Mais le fait est que Dieu nous a créés, que Dieu nous a donné la vie, et que Dieu nous appelle dans un but merveilleux. Notamment, ceux qui feront partie des prémices. Cela montre qu'il y a quelque chose de significatif concernant vous et moi. Il y a quelque chose d'important. Car nous sommes importants pour Dieu, en pouvant devenir ses enfants. Dans un sens, il y a une grande valeur dans chaque être humain que Dieu appelle et avec qui il travaille. Et finalement, cela concernera tous les êtres humains. Aussi, la façon dont nous nous voyons nous-mêmes n'a en réalité aucune importance. Nous devons comprendre la grande valeur que Dieu a placée dans chacun d'entre nous. Il nous aime, nous sommes comme des petits enfants à ses yeux. Je l'imagine assis au bord de son trône en attendant le moment où il nous ressuscitera et où nous pourrons le voir les yeux dans les yeux. Il attend assurément ce moment-là et bien plus que nous ne l'attendons, car il sait exactement de quoi sera fait notre avenir. Il sait ce qu'il nous donnera à faire. Frères et sœurs, le jeûne est important. Il est important que nous gardions bien les pieds sur terre lorsque Jésus alla au désert et commença son ministère. Il a dû traverser une période de temps pendant laquelle il devait être exceptionnellement proche de Dieu. Et il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Nous ne devons pas essayer de faire de même. Et je ne pense pas qu'aucun d'entre nous pourrait faire cela et rester en vie. Mais le fait est qu'il a jeûné et qu'il s'est approché de Dieu. Et bien qu'il était physiquement faible, il était spirituellement fort. Et lorsque nous sommes faibles physiquement, nous pouvons être forts spirituellement, si nous jeûnons de la bonne manière. Nous vivons vraiment à une époque très dangereuse. Nous entrons dans une nouvelle phase de l'histoire humaine et il n'est pas difficile de voir que les choses sont bien différentes de ce qu'elles étaient il y a quelques années encore. Les choses ont toujours changé, mais c'est un changement massif qui a lieu dans notre monde actuel. Un changement se prépare aussi dans l'Église cette année. D'une façon ou d'une autre, ce sera probablement pour cette année, je ne sais pas, je n'essaie pas de faire des prévisions. Je dis juste que je connais la situation, je connais les faits, et à moins que Dieu n'intervienne, nous aurons un changement de direction, et cela a peut-être déjà eu lieu. Cela peut faire peur aux gens, mais néanmoins, nous devons reconnaître que Jésus-Christ est avec nous. Il est la tête de l'Église, il dirige la situation. Il ne réglera peut-être pas les choses de la façon dont vous ou moi voudrions qu'elles soient réglées, mais il gère la situation. Mais si vous êtes prêt à vous soumettre à lui et à travailler sous sa direction, tout se passera bien pour nous en fin de compte. Nous ne pouvons pas imaginer de quelle façon nous serons testés à l'avenir. Mais nous devons chercher l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur. N'attendez pas le jour des expiations ou la prochaine fois qu'un jeûne sera proclamé par l'Église. Particulièrement à l'approche de la saison de la Pâque, humilions-nous de la même manière que Jésus et cherchons vraiment Dieu de tout notre cœur.